Vous, nous, ensemble, un clin d'œil. Toi, moi, ensemble, un clin d'œil.
Stereophile One Dispatch Channel.
Bonjour à toutes et à tous, il est 15h, clin d'œil, une demi-heure, ensemble, tout simplement. Au programme Tcha-Tcha Loco, le micro-trottoir, aujourd'hui les sensations, les images, les émotions de l'enfance, puis rencontre avec la réalisatrice franco-israélienne Shirel Amitai à propos de son superbe et je pèse mes mots et émouvant film Rendez-vous à Athlete. Enfin, le coup de cœur de nos libraires et un brin de musique, bien entendu.
Loco, le micro-trottoir.
Tcha-tcha Loco, le micro-trottoir, vous avez répondu à la question « Pouvez-vous évoquer votre premier souvenir d'enfance ou un souvenir d'enfance qui vous est cher ?» L'évocation n'est pas toujours chose aisée, parfois une gêne. Notre histoire s'est construite petit à petit avec ce que l'on a vécu et ce qu'on imagine également avoir vécu. Un souvenir d'enfance, eh bien c'est pas rien.
Vous habitez seul chez votre mère ?
Ah ben j'habite chez ma maman.
J'habite seul avec maman dans
un très vieil appartement.
Rue de Saint-Lazare.
J'ai pour me tenir compagnie une tortue de canard.
Alors moi je vais vous expliquer une chose madame. C'est que le souvenir d'enfance, il est ancré en moi jusqu'au profond de mes artères. En l'occurrence, le jour où je suis rentré de l'école à 4h30, en l'occurrence 16h30, quand je suis rentré au domicile familial, vu que je suis issu d'une grande famille et que je suis le petit novice, le petit dernier, je suis rentré dans cette salle de séjour avec une table que ma maman avait astiquée, qu'on voyait le reflet des visages de mes frères et sœurs. J'ai pris ma collation de 16h30 et je me suis attablé avec mes frères et sœurs, comme si c'était une grande étude, pour potasser mes devoirs. On entendait les mouches voler et le bruit des feuilles qui se tournaient et les stylos posés. Et ça, c'est un souvenir qui me reste ancré dans moi depuis X temps, jusqu'à ma mort.
Votre premier souvenir d'enfance ?
Mon premier souvenir d'enfance, c'est mon frère avec qui j'ai 3 ans et demi d'écart, je suis l'aîné, qui était sur son trotteur, qui tombait et qui n'arrivait pas à se relever tellement il avait les fesses lourdes.
Merci.
De rien.
Bonjour madame, quel est votre premier souvenir d'enfance ?
Mon premier souvenir. Oh mon Dieu, oui. Oui, je suis pas de Manosque, mais je suis base alpine. Et je suis à Manosque depuis 40 ans. Et mon premier souvenir.
D'enfance.
C'était. Un souvenir d'école. Voilà, nous étions loin de l'école, nous avions une institutrice qui était sensationnelle. Donc, c'est un des beaux souvenirs de mon enfance. C'était une institutrice sensationnelle, qui était très proche des élèves, qui nous, le matin, nous étions loin, donc elle nous faisait mettre près du poêle pour qu'on se réchauffe. C'est très, très, très...
C'est encore un souvenir qui est vivant.
Ah oui.
Quel est votre premier souvenir d'enfance ? Voilà un souvenir d'enfance qui vous a marqué.
Premier souvenir ? C'est un peu dur, hein.
D'enfance.
Moi ?
C'était les planeurs à Vineau-sur-Verdon, moi, quand j'étais petit.
C'est un souvenir qui est fort pour vous ?
Oui, très. J'en ai fait mon travail, au final.
Ben, le festival à Manosque.
Norvège.
Le festival qui est perdu, qui n'en a plus.
Le festival, c'est un souvenir qui est fort pour vous quand vous étiez petit ?
J'allais avec ma mère tout le temps. Alors, ça me plaisait, maintenant il n'y en a plus.
Premier souvenir d'enfance ?
Ouais.
Hein ?
C'est quand j'ai rencontré la première fille.
Oula. Ah. La première fille, c'était votre maman.
Ça, c'est... Ah, mais ça, c'est bébé, ça. Ah, c'est bébé.
D'accord, votre premier amour.
Voilà, mon premier amour. Ah, c'est trop bien, ça.
Ah. Bonne journée, messieurs. Merci beaucoup.
Merci.
Oh, oh. Ça pousse toi, hein. Le premier souvenir. Bon, je vois pas. Le premier souvenir, c'est loin. Hein.
C'est pas si loin que ça.
Eh si, hein, il y a quand même 74 ans. Hein. C'est déjà. Non, je vois pas. Le premier souvenir. Ouais, de toute façon, ça serait la jeunesse, hein, qui nous manque maintenant, hein, de toute façon. Puis les gens, ils sont durs, du moins ici, toujours. Hein, parce que moi, je suis du côté de La Rochelle. Alors, c'est vrai que c'est dur partout, de toute façon. Alors,
hein. C'est délicat. Oh là là, c'est délicat, ouais.
Aussi.
Une vie.
Si, il y a toujours quelque chose à dire, quoi, mais. Être pris à froid, comme ça, bien sûr, après, en discutant, on sait très bien que les souvenirs, on en a, en tant qu'enfant, plein, quoi.
D'accord.
J'ai du mal à vous répondre, je suis désolée.
Non, mais merci désolée. D'avoir accepté, merci. D'avoir réfléchi quelques instants. Merci.
Merci. À vous.
Au revoir.
Au revoir.
Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Bah, quand j'étais au Portugal, j'étais petite, j'aimais bien dessiner. Jusqu'à maintenant, j'aime bien dessiner. C'est ma passion, et faire du sport aussi. Et au Portugal, je faisais des petits concours de dessin. J'aimais beaucoup refaire ici en France, parce que le dessin, c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup.
Non, je sais pas, franchement, je peux pas. Désolée.
Un souvenir d'enfance qui m'est cher. Peut-être dès que je suis arrivé à Manosque. J'avais 10 ans, je crois. Ça m'a changé, parce que je venais d'un petit village. Déjà, je suis arrivé, il y avait la route et tout, une grosse route, grosse nationale, ouais, c'est ça. C'est le premier souvenir que je dirais qui me viendra à l'esprit, c'est dès que je suis arrivé ici, ouais. Ouais, ça m'a changé, ouais. Parce que j'avais l'habitude d'habiter dans des maisons, et là, c'était un appartement, 4e étage.
Et c'est finalement un souvenir qui est heureux ou qui est un petit peu triste, votre arrivée? Non, c'était excitant pour un enfant.
C'est
l'aventure.
Et c'était partagé, en fait. Il y avait un petit côté, j'étais un peu dégoûté de partir de là où j'avais grandi. J'étais resté avec les gens que je connaissais depuis tout petit, mes amis. Et excité aussi, heureux de découvrir un nouvel endroit,
une nouvelle vie.
Une nouvelle vie, tout à fait.
Merci beaucoup, c'est très gentil, vous avez un beau sourire.
Merci, vous aussi.
Alors, le premier souvenir d'enfance qui m'est cher, c'est j'habite au bord de la mer et à chaque fois, en sortant de l'école...
Je ne veux plus de roses, mademoiselle, car mes rendez-vous n'existaient jamais.
Souvenir d'enfance, ça a été ma première poupée noire. C'était les premières qui existaient. J'avais 4 ans et c'est ma grand-mère qui me l'a achetée. Et pour moi, c'était merveilleux, cette poupée noire. Et je l'ai gardée toute ma vie et c'est ma fille aînée qui l'a toujours. Voilà.
Vraiment, sincèrement.
Il est là.
On continue à
ce sujet. Merci.
Jeune homme, est-ce que vous pourriez évoquer juste un souvenir d'enfance?
Un souvenir d'enfance, allez.
Ouais, mais quel souvenir, je vais dire. Mais j'en ai eu des milliers de souvenirs, moi. Un bon ou un mauvais?
Et voilà, exactement. Alors, jeune homme, est-ce que vous pourriez évoquer soit votre premier souvenir d'enfance, soit un souvenir d'enfance qui vous est cher?
Mon souvenir d'enfance, c'est que mon grand-père, à 12 ans, il m'a attrapé dans le cabinet au Maroc avec la bonne.
Ah oui, d'accord. Ok, d'accord.
Ça, c'est mon premier souvenir.
C'est votre tout premier souvenir.
Bon, mon deuxième souvenir, c'est que j'ai été marié 17 ans avec une Corse et que j'ai 3 filles corses. Et j'ai été marié 17 ans avec une Napolitaine. Quando calienta del sole che la playa, sento un vento vivace ne so di me. Alors maintenant, en Corse. Al sole nzara, felice di gustare sur la plage del sole nzara. Al sole nzara, felice di gustare.
Ah, le monsieur dit qu'il va pleuvoir. Je crois qu'il a raison, non?
Non,
merci beaucoup.
De rien, fille.
Ben, c'est quand j'étais tout petit, je vais avoir 4-5 ans. Mon papa est apiculteur, il allait toujours aux ruches et je voulais à tout prix aller avec lui. Donc à force de lui casser les pieds, il m'a dit oui.
Ça, c'est votre premier.
Voilà. Mais il m'a dit de rester dans le camion. Sauf qu'au bout d'une demi-heure, moi, je ne pouvais plus rester dans le camion. Donc je suis sorti, je suis allé faire comme lui, j'ai ouvert les ruches et tout. Sauf que j'avais rien du tout. Et après, j'ai passé 3 jours au lit avec je ne sais pas combien de piqûres d'abeilles, avec 40 sauts de fièvre. Ah, ça a été initiatique, quoi. Et puis je suis toujours là, donc ça va.
Merci. C'est la panne sèche.
C'est la panne sèche, le souvenir.
Moi, ce qui me vient en premier, c'est une petite fontaine où il y avait la cloche au-dessus à l'école maternelle. Alors, je ne sais pas si c'était mon premier jour d'école, mais je me souviens que ma maman était derrière moi et que je suis partie. Elle m'a dit, attends, dis-moi au revoir quand même. Donc, je lui fais un bisou et puis voilà, j'ai été voir cette espèce de... C'était pas un puits, mais ça ressemblait comme une fontaine. Et il y avait la cloche au-dessus, la cloche de l'école.
Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. Ces petites misères sont humaines.
Ah là, tu fais beau, là.
Avec l'envie follette de bousculer la terre, défiant les voix qui m'aiment et m'exposent leur peur, je trace les yeux baissés pour éviter ma mère. Je tremble, je suis petite et puis grande et je pleure.
Alors tu fais ton chemin en sautant dans les flaques, tu te salis les robes en rêvant de demain. Tu rigoles de tout, tu es une tête à claque. Je veux toujours me porter bien.
Ceux qui me freineront, sous prétexte qu'ils sont tristes, peuvent bien s'épuiser. Je ne les entends plus, je compte m'éclater, suivi de mes artistes, afin de mettre au monde un bouquet d'ingénieux.
Alors la tête pleine et le sang agité, le corps dans ton armure et le cœur bien fragile, tu danses en avançant avec tes yeux mouillés.
Telle une funambule, je traverse mon fil. Et si je
tombe, les gens que j'ai conquis seront une centaine à tendre un drap de soie. Si je tombe,
ou bien je serai seule, mais mon ange véritable s'occupera de moi. Avec l'envie follette de bousculer mon linge, sa tête sur mon épaule, ses petites fesses bien fragiles, j'avance déboussolée, me creusant les méninges, prenant soin d'un décor aux allures de famille.
Alors tu fais ton chemin en sautant dans les flaques, tu cultives l'innocence érudite de demain, redessinant la cible, perfectionnant ton arc. Je veux toujours me porter bien.
Ceux qui me freineront, sous prétexte qu'ils ont peur, peuvent bien me juger. Ils ne me touchent plus, je compte tout déchirer, sans trop croire au bonheur, pour donner goût de vivre à ma belle ingénue.
Alors la tête saine et le sang agité, le corps sans ton armure et le cœur bien lucide, tu danses en avançant avec tes yeux comblés.
Telle une funambule, je traverse mon fil. Et si je
tombe, les gens que j'ai conquis seront une centaine à tendre un drap de soie. Si je tombe, ou bien je serai seule et mon ange véritable s'occupera de moi. Si je tombe, les gens que j'ai conquis seront une centaine à tendre un drap de soie. Si je tombe,
ou bien je serai seule, mais mon ange véritable s'occupera de moi.
Mm-hmm.
cinéma Le Lido à Manosque dans le cadre des ciné-rencontres proposées par l'association France-Palestine Solidarité était projeté le 30 mars dernier. Rendez-vous à Atlit, une comédie dramatique de la réalisatrice franco-israélienne Shirel Amitai. Israël, 1995, la paix est palpable. Dans la petite ville d'Atlit, Kali retrouve ses deux sœurs, Darel et Asia, pour vendre la maison héritée de leurs parents. Elles ne sont pas d'accord. La famille, ses fêlures, les blessures d'enfance, la femme que l'on est devenue également, de vieux conflits alors refont surface. Le 4 novembre, alors que le processus de paix est anéanti, suite à l'assassinat d'Yitzhak Rabin, les trois sœurs refusent d'abandonner l'espoir. Un film bouleversant, un film d'amour, de réconciliation, d'espoir, de paix, rencontre avec Shirel Amitai.
La première image du film est un âne mort. Elle est très importante, cette première image, c'est l'âne mort, c'est cet animal, cette tendresse qu'on retrouvera dans le film, de cet animal d'enfance. La première minute du film, une jeune femme est dans un train, le paysage défile, elle a le visage qui est collé contre la vitre, il y a une musique qui est en fond, voire presque un brin mélancolique, et tout de suite il y a une inscription dans un champ sur un panneau, non à la violence, oui à la paix, votre film débute ainsi.
Et il finit ainsi aussi, je crois, non à la violence, oui à la paix.
Mon film se passe en Israël en 1995, au moment où il y avait une vraie danse, prière autour d'une paix. Ce n'était pas qu'une danse, une prière, c'était une réalité. Il y avait deux messieurs assez importants, Rabin du côté israélien et Arafat du côté palestinien, qui travaillaient et qui se mettaient d'accord et qui étaient d'accord de dire oui à la paix et d'arrêter cette guerre.
La paix était proche.
Elle était très proche, elle était palpable. Et donc, mon film se passe à ce moment-là, et c'est là où Rabin se fait assassiner par des extrémistes juifs. Et depuis, plus jamais on a parlé de paix. Et j'avais envie de revenir au discours de paix. J'avais envie de raconter une histoire de paix humaine, c'est-à-dire la paix de ces trois filles, trois sœurs qui vont se retrouver là avec toutes les raisons possibles pour se bagarrer, mais qui finiront par faire une paix entre elles, parce que la paix aussi personnelle, c'est-à-dire la paix avec soi-même, ça commence par là, avec ses démons, avec ses fantômes, avec ses peurs. Mais parler de la paix, pas de façon politique, de balle de ping-pong, de la faute à qui, mais juste comme un sujet, quoi, la paix.
On comprend bien, en voyant votre film, qu'effectivement, il est essentiel de faire la paix avec soi-même, intérieure, avec les autres, si je peux dire, une paix extérieure, entre guillemets, sinon la vie n'est pas respirable.
Surtout, je pense que l'ennemi, soi-disant, hein, entre guillemets, il est en soi quelque part. Donc la paix avec soi, c'est vraiment c'est par là où ça doit commencer. Ça ne sert à rien d'aller faire la paix avec quelqu'un quand on est en pleine guerre intérieure.
Adam Olam, Asher Malam, Beterem Kol, Yetzir Nivra.
La
Le film traite aussi, comme vous le disiez, du conflit israélo-palestinien. Et vous le traitez avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tendresse. Et finalement, c'est un film très lumineux que vous avez fait. Ça fait vraiment du bien. Cet angle-là, pour vous, il était incontournable?
Ben oui, parce que je ne suis pas du tout dans la démarche de la guerre. Je suis dans la démarche de la paix. Donc je l'aime, mon ennemi. Enfin, voilà. Et puis je suis l'ennemi aussi. Donc, de toutes les façons, je pense que tout ce qu'on fait dans la vie, il faut le faire avec joie. Il faut essayer toujours de trouver un tout petit peu de lumière, un tout petit peu de beauté, de poésie, parce que sinon on fait mal les choses. Même parler de ça, il faut trouver la joie dans cette démarche. Le conflit israélo-palestinien est un conflit compliqué, et la façon dont il est vu, perçu, est rempli d'ignorance, est rempli de préjugés, etc. Je veux pas rentrer dedans, et surtout j'en ai très très marre du parti de football où chaque citoyen du monde se voit juge. C'est-à-dire carton rouge, Israël carton rouge, à Palestine carton jaune, à Israël carton rouge. C'est-à-dire mais qui quoi, pourquoi, qui sait quoi, on ne sait rien. Vraiment, j'ai fait ce film pour appeler tout le monde à prier et à rejoindre vraiment le désir de la paix, qui est un désir joyeux, gai, amusant, déconnant, voilà. Parlons de ça, parlons du fait que, voilà, aidons-les là-bas, parce qu'ils sont quand même assez bien barrés, aidons-les à trouver la paix et non pas leur envoyer des messages de genre, nous on est pro ça, on est pro ça. Non, on n'a pas à être pro quoi que ce soit, on est pro paix. Enfin, moi je suis pro la paix. Toucher aussi un sujet qui est universel, qui est la famille.
L'héritage.
L'héritage, les blessures d'enfance également.
Oui. L'héritage, parce que en fait, la politique, c'est là où on est assise. Alors, je vais décrire. Hein. On est assise dans un escalier.
Allez-y, vous le ferez très bien.
On est assise dans un escalier. C'est un peu sombre. Il y a un peu de réverbères.
On est entre chien et loup.
Entre chien et loup. Et puis il y a un cours d'eau là qui. Ça. Et puis on est deux. On est que nous deux. Hein. On est assise face à face. Hein. Mais là, c'est déjà de la politique. C'est vous et moi. On est déjà dans une configuration politique, c'est-à-dire, vous allez me poser des questions, je vais vous répondre, on va se regarder, on va pas se regarder, je vais dire ce que j'ai envie de dire, je vais pas répondre à votre question, vous allez insister sur une question, etc. Il y a déjà...
Non, j'insisterai pas.
Non, non. Ce que je voulais dire, c'est que parler politique, finalement, famille, c'est déjà une politique, c'est une politique très compliquée. Mm-hmm. Alors, un pays, c'est, alors là, c'est... Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce parallèle, c'est-à-dire qu'il y a cette famille, c'est compliqué la politique dans une famille.
La fratrie,
surtout chez les sœurs, qui sont bien plus violentes que les frères.
Moi je l'aime, le vieux tableau électrique. Je l'aime, le vieux tableau électrique, pardon, mais je l'aime, le tableau électrique qui est pas aux normes. T'es aux normes, toi? T'es aux normes. Il a pas l'air, t'es pas aux normes. Moi, je suis plus, on en a rien à foutre de la norme. On s'en fout de la norme. Et moi, j'aime me faire écroquiter par la prise du salon. J'aime que ce tableau soit pas aux normes, et même vous.
Quoi? Quoi, non?
Vas-y.
Non, ne forcez pas.
Ne forcez pas. Non, je peux pas dire ça. C'est pas grave, ça va aller.
Quoi, Kelly?
Cette douleur, dire je t'aime à une sœur, il faut.
Voilà,
ça
m'a vraiment troublée. Et comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, la fin du film a vraiment. Le film, hein.
Ouais.
J'ai été bouleversée. Et cette fin, justement, quand elle dit allez, vas-y, tu peux le dire, et puis elle le dit, c'est extrêmement.
Ouais.
Vous êtes dans la justesse. Voilà, c'est juste. Votre regard est. Il est simplement là.
Merci.
Et il est juste.
Merci beaucoup, j'espère.
Vous êtes une réalisatrice franco-israélienne et vous présentez votre film dans le cadre des ciné-rencontres qui est organisé par la FPS, l'association France-Palestine Solidarité. C'est un signal fort.
C'est un signal fort, mais avec réserve pour moi, parce que j'aurais préféré que cette association s'appelle
solidarité, paix en Palestine. Voilà. Mais parce que j'aimerais vraiment que tout le monde se relie sur un seul sujet, qui est la paix, et que voilà, que le match de football s'arrête, voilà, qu'on puisse tous se dire, nous sommes tous frères et sœurs pour le même désir, qui est un désir de paix. Pour obtenir la paix, il faut arrêter les guerres. Et les guerres, c'est aussi les guerres de je suis pro-israélien ou je suis pro-palestinien. Il y a de quoi être pro l'un ou pro l'autre, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être pro la paix et que les autres se débrouillent. Nous, on peut juste émettre la prière. Enfin, moi, j'aimais la prière. Ce film est visionnable sur VOD. Il s'appelle Rendez-vous athlète. Enfin, moi, personnellement, ça changerait pas grand-chose à ma vie financière si les gens le voient, parce que les cinéastes reçoivent reçoivent rien. Mais voilà, si quelqu'un veut le voir pour se joindre à cette prière de paix, je les invite.
C'est ma prière. Le jour viendra. C'est ma prière. Le monde changera. Un beau jour sur la terre.
Aïe!
Nous quoi?
La lumière.
Hommage à Gian Maria Testa, chanteur italien, qui nous a quittés le 30 mars. Nous l'accompagnons avec justement Accompagni Arti.
Per accompagnarti. Giù fino in fondo a questo nostro strano giorno, anche se tu sei come sei e non mi ascolti. Per accompagnarti, sì, ti accompagnerei per quella specie di segreto che hai negli occhi, ma intanto tu. Se vuoi che resti.
Il est tout juste 15h30. Clin d'œil devrait se terminer. Une demi-heure. Eh bien non, nous allons enchaîner tout de suite.
Vous êtes curieux?
Ça tombe bien,
nous aussi.
Coup de cœur de nos libraires. Isabelle, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Alors, aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'aimerais parler du livre de Toni Morrison qui est paru en août 2015 et qui s'appelle Délivrance aux éditions Christian Bourgois. Délivrance, c'est un livre dont le personnage principal est Lula Ann Bridewell et qui est une petite fille qui va naître au sein d'un couple métis très clair et qui est très fière de cette peau claire dans les années où il y a encore la ségrégation aux États-Unis. Et donc cette petite fille va naître extrêmement noire. Et ça va être un drame pour ses parents. Le papa va quitter sa femme en pensant qu'elle l'a trompé. Et la maman va rester complètement désemparée de cet enfant qui est très noir. Et elle aura du mal à la toucher. Enfin, le lien va être vraiment difficile à se créer. Donc cette petite fille, son but, ça va être qu'enfin, un jour, sa maman la prenne par la main, la regarde, la considère. Pour cela, elle va commettre un mensonge terrible qui va avoir des répercussions dramatiques sur certaines personnes. Le livre va porter sur la délivrance du mensonge, la délivrance d'une enfance malheureuse, pour après un peu arriver à une renaissance.
On suit cet enfant après, à l'âge adulte.
Tout à fait. Donc, cette petite fille qui a une enfance très difficile va devenir une femme magnifique dans les années 2000, voilà, où elle n'a plus de problèmes, elle a un très bon travail, elle dirige un rayon d'une entreprise de cosmétiques. Elle gagne très bien sa vie, elle est, voilà, et c'est une très belle femme qui s'habille toujours en blanc pour faire ressortir encore plus sa peau noire. Et elle va rencontrer un homme qui s'appelle Booker. Ils vivent un amour passionnel, mais un beau jour, ce Booker va partir. Son corps va se métamorphoser et elle va partir donc à la recherche de cet homme. En allant à sa recherche, le passé va défiler et elle va peu à peu comprendre tout ce qui a pu lui arriver. C'est vraiment un très beau livre, que j'ai adoré.
Et que vous recommandez.
Tout à fait, oui.
Merci Isabelle.
Merci Nathalie.
Olivier Roman, bonjour pour aujourd'hui.
Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de La route étroite vers le nord lointain de Richard Flanagan.
Le titre déjà dit beaucoup, il est très poétique.
Voilà, ben justement, le titre est issu d'un haïku japonais. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a la poésie. Et cette poésie, on va la retrouver dans le livre, même si le sujet est extrêmement dur. Richard Flanagan va en fait un peu raconter l'histoire de son père, un peu romancée. Quelle est-elle cette histoire? On va suivre un jeune Australien, Dorigo Evans, qui, après être parti d'un milieu très modeste, va réussir dans la vie, va devenir chirurgien, et va être engagé dans l'armée durant la Seconde Guerre mondiale, dans l'armée australienne. Après un épisode en Afrique, il va se retrouver à Singapour et va être prisonnier des Japonais. Et avec plusieurs milliers de ses compatriotes, il va faire partie du chantier pour construire une ligne de fer entre la Thaïlande et la Birmanie. En fait, ça rappelle un peu le pont de la rivière Kwai, c'est un peu cette histoire, en fait. Sauf que, voilà, c'est vraiment ce qui est arrivé au père de l'auteur. Et donc, on va suivre ce personnage, Dorigo Evans, qui est colonel et qui va vite devenir le chef de tous ces prisonniers australiens. Et on va suivre leur mois très difficile, leur mois de calvaire, avec des officiers et des soldats japonais très durs, dans des conditions catastrophiques. Ce qui m'a vraiment impressionné dans ce livre, donc c'est une succession de courts chapitres. Donc on est toujours des flashbacks, donc on suit Dorigo Evans au moment où il est prisonnier. Avant qu'il soit prisonnier, sa fiancée, il a rencontré une jeune fille dont il est très amoureux, etc. Et la période contemporaine où après la guerre, il est devenu vraiment un représentant des prisonniers de guerre et quelqu'un de très reconnu dans la société australienne. Et c'est vraiment une écriture magnifique, très poétique, pour présenter des choses qui sont parfois extrêmement horribles. Il y a des scènes qui sont vraiment très très dures. On suit Dorigo Evans, mais aussi les officiers japonais. Pourquoi ils font ça? L'auteur essaie de rentrer dans la psychologie de ces hommes qui vraiment font des choses, mais vraiment vraiment très 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 dur.
Ce qui doit finalement, excusez-moi, je vous coupe, ce qui doit finalement demander une écriture assez délicate pour rentrer dans la psychologie de.
Voilà, exactement. Voilà, l'écriture est très délicate, très poétique, et voilà, c'est comment rendre. C'est vraiment très très beau. Et c'est, ouais, un moment, ces hommes-là, ils essayent même plus de croire en Dieu, c'est comment croire en l'humain, en fait. C'est même plus, voilà, c'est comment, après tout ce qui arrive, tout ce qui se passe, comment continuer à croire en l'humain, quoi. Et c'est vraiment un livre vraiment très, très beau, très, très fort, avec des scènes, c'est vrai, très dures, mais toujours en filigrane, une espèce de poésie qui fait que, voilà, c'est un livre très, très attachant, qui avait d'ailleurs eu le Man Booker Prize en 2014, qui avait été très, très... très très suivi aux États-Unis.
Merci.
Merci à vous.
Let on yo. Si la la bi da bi do ye yo be be bo day. Let on yo. Let on yo.
Aujourd'hui, le coup de cœur de nos deux librairies Manoskin, Le Petit Pois et Au Poivre d'Âne, était Délivrance de Toni Morrison aux éditions Christian Bourgois et La Route étroite vers le nord lointain de Richard Flanagan aux éditions Actes Sud. Retrouvez les références sur notre site, onglet Manosque, émission Clin d'œil. Clin d'œil, c'est terminé. J'ai largement dépassé la demi-heure, mais c'est pas bien grave. Alors, la dernière fois, je vous présente des excuses, si vous voulez bien les accepter. Je vous avais donné rendez-vous le 28 mars, mais oups, comme j'ai souvent la tête dans les nuages et dans les étoiles, j'avais oublié que le 28 mars était un jour férié et par conséquent, il n'y a pas eu d'émission. Nous nous retrouvons, c'est certain, dans 15 jours, le 18 avril. En attendant, eh bien, ne soyez surtout pas raisonnable. Je vous laisse en compagnie d'Agnès Jaoui.
Tanta dor pra se saber que aconteceu pra não esquecer.
Tanta dor pra se saber que aconteceu pra não esquecer. Gente, gente no vagão mal podiam respirar.
A angústia no sermão acaba sempre por chegar.
Quem diria tua cara é esse sarilho? Bagau de ferro para o tivés, amontoando o ser humano.
Ferruja com a linha, entoando a maldição.
Suor e sangue da arada.
É o pranto, é o grito.
Suor e sangue da arada.
Olé.
Pela corda.
Sarilho.
E um dia quem diria tua terra é esse sarilho. de ferro paro de vez, amontoando ser humano.
Enferruja com a linha, então